Les années noires sous l'occupation allemande, un récit détaillé, un témoignage poignant, une interview, Albert Agnel.
J'ai eu d'autre part personnellement beaucoup de chance encore parce qu'il faut savoir avant tout qu'en un camp de concentration, il fallait avoir de la chance pour survivre. Il fallait avoir pas de la chance une fois, comme quelqu'un qui gagne un grand lot tombe là, il a gagné une fois, ou une chance qu'une fois qui est tombé, quelqu'un a trouvé la femme de ses rêves ou l'homme de ses rêves, il s'est marié, il est heureux, il a eu de la chance. Mais là, il fallait avoir de la chance tous les jours, toutes les minutes, à chaque instant, parce qu'on pouvait être abattu pour un oui, pour un non, par un SS qui passait par là, qui avait envie de tuer quelqu'un. On pouvait être envoyé dans un commando épouvantable, on pouvait être privé de nourriture, mis dans un cachot, rien que parce qu'on n'a pas souri ou on n'a pas enlevé son chapeau. Ça s'appelait une mitze. Mitze, c'est le chapeau que les prisonniers avaient. On devait l'enlever chaque fois qu'on croisait un Allemand. S'il avait oublié ou n'a pas vu, n'a pas enlevé son chapeau, il pouvait être condamné à mort. Donc il fallait avoir une chance à toutes les minutes. Mais moi, j'avais cette chance-là, que j'étais dans ce Sauberskommando, commando de nettoyage, parce que j'aurais probablement pas survécu plus de quelques jours ou quelques semaines si on m'avait envoyé travailler sur les routes ou ailleurs. Donc, la deuxième chance que j'avais, que j'ai fait connaissance dans les camps, dans la baraque où on logeait, d'un homme qui m'a vu seul, parce que ma mère et ma sœur étaient ailleurs en ce moment-là, qui m'a vu seul, qui m'a pris un peu sous sa protection. Et lui, il était chef de commando de cordonniers. Il y avait aussi un commando de cordonniers qui avait une baraque où tous les souliers qu'on enlevait aux prisonniers étaient réparés, nettoyés et envoyés aux Allemands. Les Allemands protégeaient cet atelier de cordonnerie parce qu'eux-mêmes, les cadres, les officiers et tout, avaient besoin de chaussures pour leur famille en Allemagne et pour eux-mêmes. Alors, ils protégeaient ces commandos, ils leur donnaient un peu mieux à manger pour qu'ils leur fournissent et qu'ils arrangent leurs souliers et en cachette, donnaient des souliers pour envoyer à leur famille en Allemagne. Et cet homme-là m'a pris en sympathie et comme il recevait des Allemands, des vieilles boîtes de conserve, des croutons, des pains, toutes sortes, il me partageait avec moi, il me donnait souvent. J'avais ainsi un supplément de nourriture que d'autres prisonniers n'avaient pas. J'avais encore une autre chance, que je ne suis toujours pas fumeur. Je n'ai jamais fumé une cigarette de ma vie parce que ça me dérange, je n'aime pas ça. Et les Allemands ont compris que les prisonniers qui devaient travailler se révoltaient et refusaient de travailler s'ils ne recevaient pas quelques cigarettes. Il y avait des fumeurs, il y en a toujours dans le monde, peut-être aujourd'hui on a dit que les gens, que les fumer n'est pas une bonne chose, c'est peut-être moins important, mais à l'époque il y avait des fumeurs acharnés et ils auraient donné leur vie pour une cigarette. Pour éviter que les gens se révoltent, les Allemands donnaient aux prisonniers quelques cigarettes par jour. Je crois que c'était 3 ou 4 cigarettes. Et moi, je les recevais comme tout le monde. Mais je ne les fumais pas. J'ai changé donc mes cigarettes contre des rations de pain. Et à un moment donné, les Juifs hongrois, beaucoup de prisonniers hongrois sont arrivés au camp, mais c'était plus tard. Je me souviens encore de la formule « Et center kenyer harum cigarette ». C'est la seule phrase que je connais en droit. C'était le tarif de l'époque, 1 centimètre de pain. De pain pour 3 cigarettes. Les prisonniers qui recevaient quelques centimètres de pain par jour donnaient leur pain, qui était leur vie, pour avoir des cigarettes. Mais moi, je vendais mes cigarettes, j'étais marchand de cigarettes tous les jours. J'avais donc un peu de cigarettes que je changeais contre les aliments, un peu que me donnait le monsieur qui était chef de cordonnier, et le peu que je recevais des Allemands, ça m'a permis de survivre. J'ai donc travaillé dans ce camp de Bergen-Belsen, j'y suis resté 22 mois. Je dois vous dire, pour ceux qui comprennent ce que c'est un camp, que survivre 22 mois dans un camp est très, très rare. La plupart des gens, ils survivaient entre plusieurs semaines et plusieurs mois, suivant les cas, et quelques-uns un an plus, mais c'est très rare. 22 mois, et je pense que cela est dû à toutes ces choses que je viens de vous raconter, que j'avais donc des facilités de travail et d'alimentation. Cela n'empêche que je suis sorti des camps avec, je ne sais pas, très maigre comme un clou, affamé, malade, mais enfin, quand même encore debout et capable de marcher, de travailler et de parler. Euh, Ma mère et ma sœur ont survécu dans d'autres camps, aussi à Bergen-Belsen, un autre commando, aussi plus par miracle. Ma mère, très marquée, elle est sortie, je crois qu'elle n'avait plus que 35 ou 40 kilos. Elle ne savait plus tenir debout, il fallait presque la soutenir. Mais elle s'est remise, Dieu merci, elle est revenue à une vie normale. Plus tard, elle s'est remariée, elle a fondé une famille. Ma sœur a mieux survécu que ma mère. Elle était plus jeune, beaucoup plus jeune. Et elle a, suite, elle a quitté la Belgique, elle est allée émigrer en Amérique, où elle habite toujours, elle a maintenant 90 ans. Mais survivre 22 mois au camp de concentration est quelque chose de très étrange. Bien plus tard, je me suis retrouvé en Belgique. Je peux vous raconter aussi comment je me suis retrouvé en Belgique. Et je me suis retrouvé dans un home pour enfants qui avait des retards scolaires. Évidemment, j'avais un retard scolaire, non pas grand, mais total, puisque pendant la guerre, il n'y avait pas d'école. Il n'était pas question d'école. Il n'était même pas imaginable de parler à une école. J'étais donc censé être analphabète, puisque j'avais 6 ans quand la guerre a éclaté et il n'y avait pas de guerre. Je ne l'étais pas. Ma sœur m'a appris à lire et à écrire. Et même dans les camps, j'ai même des journaux à ce sujet qui parlent de ces faits-là, des journaux polonais qui racontent ça, je vous raconterai plus tard, j'ai appris à lire, à écrire, à calculer, et même à parler rudimentairement, de façon bien sûr anglais, ce qui m'a beaucoup plus servi. Mais j'étais censé quand même être en alphabet, je n'avais pas suivi un cours scolaire, et il y avait un home qui se trouvait près de Tournai, dans une petite ville qui s'appelle Marquin, ici près de Tournai, qui fait maintenant partie de l'agglomération de Tournai, où il y avait un ancien couvent abandonné, où une organisation juive, je ne sais pas laquelle, Joint ou une autre, a offert une espèce d'école pour tous les enfants retrouvés dans les camps, retrouvés dans des familles cachées, ici en Belgique même, qui n'ont pas pu suivre l'école pour attraper les cursus scolaires, pour faire. Nous avons fait toute l'école primaire en une année, parce qu'on était déjà des adultes, on était déjà des grands garçons, et pour nous comprendre, et la plupart avaient déjà des connaissances importantes, mais pas réglementaires. Donc, pour pouvoir réintégrer l'Athénée et puis continuer nos études, nous avons dû passer cette année-là.